Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission à suivre. Bruno Donnet qui débug les sondages. Je ne vous dis que ça, c'est dans quelques instants. Notre invité, le comédien Pierre Arditi pour une pièce de théâtre avec un titre prometteur. Fallait pas le dire. Lisa-Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame, tout ce qui lui est arrivé avant d'être célèbre. Et puis Marc-Antoine Lebray en fin d'émission pour sa story. Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Alice Bluzet.
Bonjour.
Content de vous accueillir dans ce studio Alice Bluzet. Bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Vous analysez ici Bruno le fonctionnement de la machine médiatique et hier soir vous avez été très intéressé par un reportage de France 5 consacré à la fabrique des sondages politiques.
Oui, télescopage ce matin Philippe entre un incroyable sujet diffusé hier dans C'est dans l'air et l'actualité des plateaux de télé qui depuis 48 heures ne parle plus que de ça.
Un nouveau sondage sur les intentions de vote au premier tour vient de tomber.
Marine Le Pen perd du terrain si l'on retient l'hypothèse d'une candidature d'Éric Zemmour.
Mesurée maintenant à 10% par le dernier sondage.
Les sondages politiques qui, alors qu'on ne connaît pas encore l'ensemble des candidats pour la prochaine présidentielle, saturent déjà tout l'espace médiatique.
Si on regarde un peu les sondages en ce moment,
la campagne présidentielle avec ce sondage Harris Interactive.
C'est le sondage Elab pour BFM TV.
Voilà, les sondages qui sont donc utilisés par les médias à la fois comme une boussole, mais aussi comme un formidable prétexte pour alimenter les débats. Seulement voilà, est-ce qu'on est sûr que la boussole indique véritablement le Nord ? Non. Nous savons tous qu'il lui arrive régulièrement de se tromper, voire même de pronostiquer des énormités. Alors, eh bien alors, C'est dans l'air a eu l'excellente idée d'aller glisser ses caméras dans les coulisses de l'Institut Kantar, partant d'un chiffre saisissant.
Les sondages, plus de 30 ont déjà été réalisés pour l'élection présidentielle de 2022, alors que la campagne n'a même pas encore débuté.
Les reporters de l'émission ont essayé de comprendre les méthodes avec lesquelles ces satanées boussoles sont aujourd'hui produites. Et les informations qu'ils ont recueillies, Philippe, sont totalement édifiantes. Car pour commencer, le patron de l'Institut Kantar a reconnu lui-même un nombre colossal de fragilités.
On a une erreur quasi systématique de surreprésentation assez lourde du Rassemblement National.
Voilà, ça plante parce que ça indique systématiquement trop d'électeurs pour le Rassemblement National. Ok, autre chose ?
Et puis, un phénomène aussi assez systématique de surestimation des listes La République En Marche.
Ah, bire ! Il y a aussi un problème parce que ça voit trop de sympathisants d'Emmanuel Macron.
Et de sous-estimation des sortants.
Et ça mesure enfin très mal la capacité réelle de ceux qui sont en poste à être réélus. Donc, récapitulons. C'est pas fiable avec les électeurs de Marine Le Pen, ça coince avec ceux d'Emmanuel Macron, et c'est pas terrible non plus pour mesurer les sortants. Bon, bah du coup, on fait quoi alors ?
Alors, pour affiner son enquête, l'Institut fait comme la plupart de ses concurrents. Il corrige les résultats.
Il corrige les résultats, très bien, mais il s'y prend comment ?
Par exemple ici, Marine Le Pen est donnée à 21,5% par les sondés, mais le résultat final sera 24%.
Mais il y a 21,5% des gens qui disent qu'ils vont voter pour Marine Le Pen et on augmente le chiffre. Bah attendez les gars, je croyais qu'il était déjà surreprésenté le Front National.
On a une erreur quasi systématique de surreprésentation assez lourde du Rassemblement National.
Bref, c'est totalement empirique, tout se fait au doigt mouillé et on comprend un peu mieux pourquoi la boussole indique si fréquemment le Sud. Mais c'est pas tout, Philippe, car après avoir mieux saisi comment nous nous faisions tout de même assez régulièrement berner et bien sondé l'IFOP par Louis Harris, le reportage a donné la parole à la directrice des sondages politiques de chez Kantar. Et voilà ce qu'elle a ajouté concernant la temporalité.
C'est vrai que ce qu'on observe là depuis plusieurs années, c'est que c'est beaucoup plus volatile et le choix se fait de plus en plus au dernier moment.
Les électeurs choisissent celui pour qui ils vont voter au tout dernier moment. Du coup, sachant qu'on est quand même à 7 mois de l'élection présidentielle, ça change quoi pour les sondages qui sont publiés en ce moment ?
Ce qui rend les sondages d'intention de vote de plus en plus compliqués et leur caractère prédictif de moins en moins évident.
Voilà, c'est bien ce que je pensais, Philippe. Ça sert pas grand-chose. Enfin, juste un tout dernier mot avant de vous quitter, car j'allais oublier de vous signaler qu'après nous avoir bien expliqué l'incroyable perfectibilité des sondages, eh bien, devinez un peu pour quelle raison C'est dans l'air avait choisi hier de consacrer son émission à l'hypothétique candidature d'Éric Zemmour.
Éric Zemmour est aujourd'hui crédité pour la première fois d'un score à deux chiffres pour les intentions de vote à la présidentielle.
À cause d'un sondage, c'est parfait.
Non, merci Bruno Donnet, quelle analyse, merci beaucoup. À demain, Stéphanie Loire, le programme de vos indispensables ce matin.
Ce matin, c'est trash metal à fond. Ouais. C'est en fait les 30 ans du Black Album de Metallica, et à l'occasion, une réédition et un album de reprise. Je vais vous en parler tout à l'heure, c'est canon.
Il manque qu'un sondage. Alice Bluzet, vous programmez l'émission, je vous présente, c'est la première fois que vous venez dans l'émission. Oui. Vous avez un indispensable, lequel sera-t-il?
Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler d'une expo qui va vous donner envie de filer à la gare et de prendre un train direction Marseille.
Dans un instant, nous serons avec le comédien Pierre Arditi pour parler d'une pièce, fallait pas le dire, mais d'abord, je vais le dire, Kimber Rose sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Pierre Arditi.
Comment ça va?
Je vais très bien, j'allais vous poser la même question. Faut-il vous présenter, comédien, carrière impressionnante? On vous a vu partout, vous avez joué les classiques, vous avez joué dans les petits théâtres, vous avez joué Tchekhov, mais Florian Zeller, Yasmina Reza au cinéma, vous étiez l'un des acteurs fétiches d'Alain Resnais. Mais pas seulement, vous tournez avec Nicolas Bedos et plein d'autres choses. Il y a 4 films qui arrivent, c'est pas rien, la télé vous aime beaucoup, notamment Le sang de la vigne, la série sur France 3. Et là, votre actualité, c'est Fallait pas le dire, pièce de Salomé Lelouch avec Evelyne Bouitz au Théâtre de la Renaissance. À partir du vendredi 24 septembre, fallait pas le dire. Qu'est-ce qu'il faut pas dire?
Vous le découvrirez. Vous savez, c'est très à la mode actuellement.
Ouais.
On ne sait plus très bien ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut plus dire. Ce qu'il est raisonnable de dire et ce qui n'est pas raisonnable de dire.
Voilà. Alors, je le sais, la pièce n'a pas encore été jouée, mais j'ai lu le texte, donc je sais ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une pièce qui, d'abord, il y a une histoire dans l'histoire. Histoire particulière, puisqu'elle a été écrite spécialement pour vous deux par Salomé Lelouch, qui est la fille d'Evelyne Bouix et de Claude Lelouch.
Oui.
Mais c'est vous qui avez élevé Salomé.
Oui.
Evelyne Bouix, qui est désormais votre compagne. Et pourquoi j'en parle? Parce que, si j'ai bien compris, c'est en vous écoutant tous les deux parler, voire parfois vous écharper, qu'elle a eu l'idée d'écrire cette pièce.
Oui, c'est un... Oui, elle a vécu très longtemps avec nous.
Ouais.
Et alors, le point de départ, en réalité, c'est que c'était un truc culte à la maison. En général, ma femme Evelyne fait un très très bon gigot le dimanche, pour la famille, voilà, un truc comme ça. Et en général, on s'écharpe, non pas sur la manière dont elle fait le gigot, parce qu'il est admirable et c'est bien, mais après sur la manière de découper et de remplir les assiettes. Donc, sur un sujet qui est parfaitement futile et qui n'a strictement aucune importance, on est capable de s'engueuler comme du poisson pourri. Évidemment, on oublie ça très vite. Et donc, elle s'est servie de ça pour tout le reste.
Puisque vous parlez de cuisine, ça démarre avec une scène de la vie familiale. Vous reprochez à votre compagne, donc à Evelyne, d'avoir fait à votre maman un commentaire sur son gâteau au yaourt qui va évidemment plus loin qu'un avis culinaire. Pourquoi c'est un problème de dire un avis sur un gâteau au yaourt? Expliquez mais le cœur même de la pièce.
C'est le principe même, c'est-à-dire qu'en fait, elle a dit à ma mère que son gâteau était trop sec. Et ça, lui, ne le supporte pas. Parce qu'elle ne fait pas ce gâteau pour qu'il soit bon, elle le fait pour nous faire plaisir. Et par conséquent, la seule chose qu'elle attend en retour, c'est qu'on lui dise qu'il est bon. Mmh. Donc on ne peut pas... en réalité, quand on dit ce qu'on pense, quelquefois on pense trop ce qu'on dit. Et par conséquent, c'est ça que les gens retiennent, c'est ce qu'on a dit. Donc elle ne fait pas attention. Donc elle doit faire attention à ce qu'elle dit pour ne pas... blesser l'autre comme ça. Mais tout ça, c'est sous le couvert de la comédie, bien entendu.
Bien sûr.
C'est pas sérieux. Alors, il y a les thèmes qui sont quelquefois désuets, quelquefois beaucoup plus sérieux. Il y a un peu de tout là-dedans. Il y a le féminisme, il y a le genre, il y a un plombier qui vient, qui dit qu'il est une femme. Bon, voilà. Le mec lui dit non, vous n'êtes pas une femme. Et elle dit, bon, écoutez, il fait ce qu'il veut, il est plombier, donc on en a besoin. Bon.
Mais vous trouvez le moyen de vous engueuler, par exemple, sur le réchauffement climatique. Alors, vous dites, il fait beau. Alors, elle vous dit, ça te fait plaisir? Elle dit, bah oui. Et là, ça te fait plaisir qu'il te fasse beau? Tu peux pas dire ça.
Je comprends pas pourquoi je peux pas le dire.
Et ben parce que c'est moi qui vais faire la réplique.
Oui.
Et ben 27 degrés en plein mois de février, il y a rien qui te choque.
Si, ma fille t'a complètement retourné le cerveau.
Voilà. Et c'est ça l'histoire, c'est on a même pour dire je suis content qu'il fasse beau.
Oui, mais je suis très enthousiaste à l'idée qu'il fait beau.
Sauf que, et vous répliquez par une immense diatribe anti-écolo. Vous en souvenez de ce que vous dites ou pas? Vous avez le texte en tête parce que moi je l'ai noté.
Non, je l'ai pas. Puis j'ai pas le droit de le dire. Salomé m'a interdit de le dire.
C'est pas grave. Alors Salomé, c'est moi qui le prends sur moi. T'as déjà vu un seul écolo avec un esprit créatif, dit Pierre Arditi? C'est comme si défendre l'environnement était une activité qui leur tombe dessus quand ils savent plus quoi faire de leur vie. Ce sont des flemmards bordéliques et drogués, incapables de la moindre créativité en dehors de faire chier le monde et de donner des leçons de morale. C'est de vous, c'est de Salomé Lelouch?
Non, c'est Salomé, mais une partie de ce texte-là n'est plus dans la pièce d'ailleurs, assez marrant.
Ah mince.
Il y a une grande partie, mais je me permets de te rappeler qu'à l'époque, les écolos étaient majoritairement des babacools qui avaient fumé trop d'herbe.
Je m'en souviens très bien.
Confié le destin de l'humanité à des gens qui étaient défoncés toute la journée, toi, voilà.
J'ai commencé avec eux au journal
actuel. C'est assez décapant. Bon, ouais. Évidemment, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, puisqu'elle est très écolo en plus, c'est Salomé, donc il n'y a pas de...
J'ai bien compris. Vous égratignez aussi les féministes.
Oui, enfin, sur certaines dérives, aucun de nous n'est pour les femmes victimes d'abus sexuels ou d'abus de tout genre.
Évidemment, mais justement, votre compagne, donc Evelyne, va dans une émission de radio, évidemment c'est fictif, c'est la pièce, et on lui pose une question sur le voile.
Oui.
Et elle ne dit rien.
Non.
Et lui dit, comment ça? Comment c'est possible? Tu milites dans une association qui défend le droit des femmes à disposer de leur corps? Tu ne peux pas dire que tu n'as pas
d'avis. Sur le voile.
Exactement.
Ouais, c'est ça. Et elle dit, et toi, alors c'est quoi ton avis sur le voile? Mais moi, je ne milite pas.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on aborde beaucoup de choses qui peuvent être parfois très sérieuses et très dans le cours des réflexions d'aujourd'hui, mais on les regarde évidemment sous le biais d'une comédie, vraiment d'une comédie, c'est pas une pièce à thèse, hein.
Ouais.
D'une comédie avec tous les excès que ça peut avoir, et d'une comédie décapante et drôle sur un certain nombre des tics ou des travers de la société dans laquelle on vit.
Vous savez quoi? Vous étiez pas là, Evelyne Brix non plus, et non. Moi je me marrais tout seul en lisant le texte,
oui,
de la pièce.
Mais je
on
comprends
continue
ça.
D'en parler avec Pierre Arditi, c'est le portrait désormais pré-fame qui arrive. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Blondel.
Fallait pas le dire, c'est la pièce que va jouer avec Evelyne Brix notre invité Pierre Arditi. Ça sera à partir du vendredi 24 septembre au Théâtre de la Renaissance. Et là, on peut le dire, Lisa-Marie Marquès est dans ce studio. Bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Lisa-Marie, vous êtes avec nous pour faire le portrait de l'invité, portrait inédit, le portrait de l'invité avant sa célébrité, le portrait pre-fame.
Bonjour Pierre Arditi.
Bonjour.
Vous êtes comédien couronné de 2 Césars et 1 Molière, mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre.
On l'entend déjà grogner.
Oui, bah j'ai fait pipi dans mon lit quand j'étais petit. Je vous laisse faire le panégyrique, hein. Allons-y.
Pierre Arditi, vous êtes né à Paris dans une famille d'artistes. Vous passez une enfance heureuse entourée de votre petite sœur Catherine, de votre père qui est peintre et qui vous apprend à regarder le monde, et de votre maman, couturière de métier, belge de nationalité. Elle vous fait découvrir la Belgique, Bruxelles. Vous y allez en train pendant les vacances, rendre visite à votre grand-père. Des voyages où vous vous mettez à la fenêtre avec la sensation de voir défiler votre vie. Pierre Arditi, enfant, vous développez votre imaginaire grâce aux histoires qu'on vous lit, notamment celle de votre tante Denise qui fait des voix différentes pour chaque personnage. Vous découvrez très tôt les théâtres et les salles de concert. D'abord grâce au cousin de votre père, Jacques Canetti, qui est propriétaire des 3 Baudets, l'un des temples du Music Hall à Paris. Vous y voyez débuter Jacques Brel ou Gainsbourg?
Non.
Et...
Si.
Oui.
Il dit non, Vandel. Si.
Non, j'en revenais pas, je savais pas que c'était.
Non,
le...
non, ah,
je
pas non, il n'a pas
Jacques
fait
Canetti.
Ça. Si, il a fait ça.
C'est
il a fait
génial.
Pipi dans son lit, il a vu débuter Jacques Brel.
Non, mais quelle enfance, c'est génial. C'est génial.
Et puis, il y a le théâtre. Votre premier choc, c'est à l'âge de 8 ans. Votre père vous emmène avec votre sœur à la Comédie Française voir Robert Hirsch qui joue Sosie dans Amphitryon de Molière. Robert Hirsch devient votre héros. C'est vrai?
Oui, c'est vrai, bien sûr.
À 8 ans.
Et j'ai eu la chance d'avoir, parce que quelquefois le temps fait du bien dans nos métiers, et c'est aussi, je suis aussi devenu son partenaire, en attendant Godot de Beckett. Samuel Beckett. Voilà, oui, c'était mon dieu. Oui. Ça l'est toujours, d'ailleurs.
Le théâtre, vous le regardez, mais de loin d'abord. Vous avez une première expérience dans Pierre et le Loup, à l'école communale, où vous découvrez la sensation des jambes qui ne tiennent plus sous l'effet du trac. Mais vos parents vous voient plutôt devenir musicien. Et vous, enfant, vous voulez devenir chef d'orchestre. Une musique marque votre enfance et la promenade en traîneau de Mozart.
Bien, elle est bien documentée, la petite.
Ah ouais, hein.
Elle est bien documentée, cette petite. Ouais. Vous voyez, il y a même des cloches du traîneau à un moment donné dans le
ouais. Ouais.
Eh oui.
Pierre Arditi, à l'âge de 10 ans, vous vous mettez à tapoter sur le piano familial. Vous êtes doué, vous faites tout à l'oreille. Votre maman vous fait jouer devant Jacques Casadesus, pardon,
oui.
Le fils du grand pianiste.
Jean Casadesus,
le fils du
le
grand
fils
pianiste.
De Robert. Ouais.
Robert, exactement.
Absolument,
qui
oui.
Trouve que vous êtes un enfant prodige. Alors votre maman vous inscrit au solfège, mais là ça ne vous plaît pas du tout. Ce n'est pas fait pour vous. C'est votre sœur.
Juste un mot, on va en parler tout à l'heure. Vous allez jouer père et fils, 2 chefs d'orchestre, je ne me trompe pas,
oui,
avec Yvan Attal.
Avec Yvan Attal dans le film de Bruno Schisch qui s'appelle La Scala. Magnifique personnage et très beau film.
Et je viens de comprendre pourquoi. Lisa
alors, je rectifie très légèrement tout ce que vous venez de dire. Jean Casadesus, qui était un ami de la famille, mon père et maman dit, on a élevé Mozart, c'est merveilleux, est-ce que tu peux venir l'écouter? Bon, et je faisais la tartine de beurre d'oreille, c'est vrai, bon, voilà, enfin, bon. Et il regardait très gentiment, il lui a dit, alors, il lui a dit, bah, écoute, c'est très bien, faut qu'il fasse du solfège, voilà, c'était tout à fait normal, tout ça, ça n'avait rien d'extraordinaire, et malheureusement, pour moi, je n'étais pas Mozart.
C'est votre sœur qui vous ouvre le chemin du théâtre. Lorsque vous avez 17 ans, alors que vous avez quitté le lycée, Catherine est certaine de votre potentiel et elle vous supplie de rejoindre les cours qu'elle suit, ceux de l'actrice et professeure de théâtre Tania Balachova.
Oui.
Puis vous partez faire votre service militaire. Mmh. Et vous profitez d'une permission en 1964 pour aller à Lyon voir votre sœur qui est maintenant dans la troupe dirigée par Marcel Maréchal. Et là, c'est incroyable, vous vous retrouvez à remplacer un comédien au pied levé pour la pièce Éloquente. Vous apprenez votre texte en seulement 2 heures.
Ça aussi, j'ignorais, c'est vrai ?
Oui, c'est vrai, mais c'était pas à Lyon, c'était à Paris.
Ouais.
Pendant une permission, et c'était au Théâtre de l'Œuvre. Et l'acteur qui devait faire ça a eu un très grave accident de voiture, et c'était leur général. Et ma sœur a dit à Maréchal, mais appelez mon frère, il est là, il va le faire. Donc je suis allé. Alors j'étais pas Mozart, mais j'étais capable à peu près de
l'aligner 3 fois. Mais c'était un long texte, prendre en 2
Oui, il y avait une bonne centaine de lignes que j'ai appris en 2 heures, mais j'avais une très bonne mémoire, j'ai encore une bonne mémoire d'ailleurs. Et donc je l'ai fait, c'est comme ça que j'ai rencontré Maréchal et qui a fait une grande partie. C'est mon père de théâtre, Maréchal.
Et justement, la rencontre avec Marcel Maréchal est forte et inspirante. Il vous offre vos premiers grands rôles, comme dans l'opéra du monde d'Audi Berthie. En parallèle du théâtre, vous êtes aussi pendant quelques temps garçon de café chez un café glacier. Et vous savez, je crois, faire des glaces.
Oui, je sais faire des glaces. Et ce café n'était pas n'importe quel café, puisque c'était le café des parents de ma première femme, Florence Giorgetti, qui est la mère de mon fils. Et donc, ils m'ont appris, effectivement, à faire les glaces de ce café qui était très réputé, qui était aussi célèbre que celle de Bertillon. Café du Soleil. Il n'existe plus, il était rue de la Pépinière. Mais chaque fois que je passe devant, je pleure.
En 1970, vous jouez dans un film un peu olé olé. Un film érotique où vous avez le rôle d'un mage, un gourou, dans Alice et Chloé, un film interdit au moins de 18 ans à sa sortie.
Enfin, c'était un érotique très doux à l'époque.
Mais tout dépend du rôle que vous aviez.
René Guinville, c'était le réalisateur.
Mais vous aviez quel rôle ?
Un mage, comme ça, un peu allumé, truc comme ça, qui disait droguez-vous, machin, et les jeunes femmes se dénudaient légèrement. C'était extrêmement
light. C'était soft.
Oui, très soft.
Puis vous vous initiez au doublage. Vous ne le savez pas encore, mais vous allez doubler près de 100 voix. Et pour n'en citer qu'une, Superman, vous êtes la voix des premiers films avec Christopher Reeve. On écoute un extrait.
Excusez-moi, monsieur, vous êtes assis à ma place.
Ta place, d'où tu viens, Binoclard ?
Je crois que vous avez besoin d'une petite leçon de politesse.
Ouais.
Écoute, Clark, en
attendant. Chérie, si vous le permettez, nous allons nous expliquer dehors.
Clark.
J'ai dit, si vous le permettez, nous allons nous expliquer dehors.
Alors ça, c'est la partie de Superman quand il n'est pas Superman.
Oui, il s'appelle Clark Kent.
Clark Kent. Et oui, j'ai fait ça. J'ai doublé les Superman avec cet acteur formidable qui malheureusement a disparu maintenant. Et dans un autre film qui avait tourné Janos Vark, qui s'appelait, je ne sais plus comment, À la recherche du temps, je ne sais pas quoi, où il était projeté dans une autre époque. Il était formidable d'ailleurs.
Pierre Arditi, l'année 1979 marque un tournant dans votre carrière. Vous tenez le rôle principal de la pièce Audience et vernissage de Vaclav Havel.
Oui.
Le critique du Figaro, Jean-Jacques Gauthier, salue votre prestation dans un article baptisé Les silences de l'acteur.
L'art de l'acteur. Ah oui, enfin oui, d'accord, oui.
Et le réalisateur Alain René vient alors vous voir jouer dans cette pièce et vous engage. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.
Ah bien, formidable.
Vous n'avez rien appris, Pierre Arditi, mais moi j'ai appris plein de choses.
Elle ne m'a rien appris, mais elle savait beaucoup de choses.
Vraiment,
de choses.
Vraiment.
Oui. C'était Audience et vernissage de Vaclav Havel, qui est devenu président de la Tchécoslovaquie, puis de la Tchéquie.
Ouais.
Grand auteur dramatique, auquel on rend hommage. D'ailleurs. Je vais faire un truc sur lui, là. Et René, effectivement, est venu me voir jouer dans cette pièce, et il m'a proposé un rôle dans Mon oncle d'Amérique, un rôle qu'a refusé, je ne le remercierai jamais assez, mon ami Francis Huster, qui trouvait que le personnage n'était pas sympathique. Et moi, je l'ai trouvé follement sympathique, puisqu'après, j'ai tourné 12 films avec Alain René.
Mon oncle d'Amérique, extraordinaire film, fondé sur le livre d'Henri Laborie, Éloge de la fuite.
Absolument.
Merci beaucoup, Lisa-Marie Marquez.
Merci,
à demain.
Bravo.
Vous restez avec nous, Pierre Arditi. On va parler d'art contemporain avec Alice Bluzet, qui nous emmène au MUCEM, au cœur de l'expo Jeff Koons.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe
Vandel. En compagnie de Pierre Arditi, sur la scène du Théâtre de la Renaissance, s'appelle Fallait pas le dire, on parlait d'art contemporain avec vous, Alice Buzet, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour
c'est
à tous.
C'est votre première dans Culture Média et on va partir avec vous à Marseille.
Oui, je vous emmène au MUCEM, le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. C'est un bâtiment incroyable. C'est un peu comme le MoMA de New York ou le Centre Pompidou à Paris.
Très très beau bâtiment, très sublime. Beau. Ouais.
Le musée, il est fait en dentelle de béton. Et ajoutez à ça l'emplacement. On est au bord de la Méditerranée, juste à la sortie du port de Marseille.
Alors j'y suis allé, c'est vraiment un lieu sublime. Et là, vous allez nous parler d'une expo que j'ai eu la chance de voir. Je ne sais pas si ça va plaire à Pierre Arditi, l'expo Jeff Koons.
Oui, alors pour situer, pour ceux qui ne connaissent pas Jeff Koons, c'est un des plus grands noms de l'art contemporain. C'est cet artiste qui a transformé nos objets du quotidien en œuvres d'art pop, souvent gigantesques et en acier. C'est à lui, par exemple, qu'on doit le Balloon Dog, cette œuvre gigantesque qui représente un chien en ballon gonflable, œuvre qu'on retrouve d'ailleurs dans l'exposition à Marseille. Jeff Koons, c'est aussi l'artiste vivant le plus cher du monde. Oui. Alors, est-ce que vous avez une idée du prix de ses œuvres, Pierre
Arditi? Non, c'est exorbitant pour ce que c'est.
50 millions.
Oui, bah, 50 millions.
Chacun Philippe, fait comme il veut.
Vous êtes loin du compte. Non. La dernière œuvre de Jeff Koons, elle s'est vendue à plus de 91 millions de dollars.
Ouais, vous savez que Van Gogh qui n'a jamais vendu un seul tableau de son vivant. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez que le prix est un gage de talent, à votre avis?
Sauf que Van Gogh,
moi, je ne le crois pas. On a 6 heures devant nous.
Non, oui, c'est ça. La revanche de Van Gogh, c'est que tous les bourgeois qui se sont foutus de sa gueule quand il était vivant payent maintenant une fortune pour essayer d'acquérir l'une de ses toiles depuis qu'il est mort.
C'est des grands bourgeois.
Ne me lancez pas sur le sujet, sinon
on
est foutu.
Je vais vous lancer sur le sujet après. D'abord, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette expo Jeff Koons au MUCEM. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette expo?
Alors, elle a deux particularités. D'abord, c'est Jeff Koons lui-même qui vous raconte ses œuvres à travers l'audioguide. Et ça, c'est un très gros plus. Deuxièmement, l'exposition, elle regroupe 20 œuvres de Jeff Koons, mais aussi 350 de la collection permanente du MUCEM. Ah. Pour vous donner un exemple, le Balloon Dog dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, il est exposé face à des masques de clowns qui datent de 1920. Donc c'est ça en fait qui rend unique cette exposition, c'est qu'en fait les œuvres se répondent entre elles. Ouais. Alors pour créer une telle harmonie, Émilie Girard, la commissaire de l'exposition, a travaillé étroitement avec Jeff Koons. Elle nous raconte.
Le choix des collections du musée exposées à côté des œuvres de Koons s'est fait conjointement avec l'artiste, en fait. C'est-à-dire qu'il est venu à plusieurs reprises dans les réserves, on lui a montré, et après, à distance, on a travaillé. C'est-à-dire que moi, je lui faisais des propositions à partir d'interprétations que je faisais de son travail. Et puis lui réagissait, me disait « Ouais, là, je suis d'accord. » Là, pas vraiment, est-ce que tu n'aurais pas telle ou telle chose? Et donc, petit à petit, par ce dialogue qui s'est instauré entre nous, on a construit la liste des collections du MUCEM qui sont aujourd'hui présentées dans l'exposition.
Pendant que je donne le catalogue à Pierre Arditi, je lui donne pas, je lui prête. Fait unique aussi, le MUCEM a monté un projet dont vous vouliez nous parler, Alice.
Oui, alors le projet, il s'appelle Destination MUCEM. Ce projet, il permet à des habitants des quartiers populaires de Marseille de venir tous les dimanches au musée, et ça gratuitement. J'ai donc visité l'exposition avec eux et je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient.
Je trouve ça vraiment incroyable personnellement. Il faut avoir l'idée d'essayer de faire un ballon avec du métal. C'est un peu tiré par les cheveux, j'aime bien.
On a envie de toucher les objets, sauf qu'on n'a pas le droit. Que faire d'autre à part toucher avec les yeux?
Je me dis devait être romantique, parce qu'il y a déjà plein de trucs qui évoquent l'amour et tout, mais c'est joli. Des petits trucs avec des cœurs, il y a beaucoup de roses, beaucoup de trucs girly.
Que Jeff Koons a réussi à faire ce qu'il a imaginé tout le long de sa vie, et je crois qu'il a réussi à mettre tout ça dans son dernière œuvre.
Moi, ce que j'ai préféré, c'est le chien, mais si c'était rouge, j'aurais mieux aimé.
Pourquoi?
Parce que je préfère le rouge que le bleu, que le rose.
Voilà pour les petits, ouais, pour le rose. Voilà pour les petits donc et les grands. L'exposition Jeff Koons, c'est jusqu'au 18 octobre au MUCEM à Marseille.
Ça donne envie de retourner. Ça vous donne envie, Pierre Arditi?
Le MUCEM, j'aime beaucoup.
Ouais.
Très bel endroit. J'adore Marseille, c'est une ville à laquelle je suis très attaché. Je ne suis pas du tout client de Jeff Koons, m'en voudrais pas.
Expliquez pourquoi.
Parce que je. D'abord, je.
Je vais dire juste un mot. Vous avez aussi joué dans Art de Yasmina Reza, dont la question c'était une discussion
bien sûr,
entre
sur le tableau
une personne,
blanc, le fameux tableau blanc.
Qui était totalement.
Qui était d'ailleurs un peu injuste parce que le véritable tableau blanc, il n'est pas blanc
Malevitch,
comme une toile cirée.
Le carré blanc sur fond blanc.
Non, c'est pas Malevitch.
C'est qui, carré blanc sur fond blanc?
Non, vous parlez de ça, mais le tableau.
Le de la pièce de Yasmina Reza.
De Yasmina Reza était inspiré d'un tableau d'un autre peintre, dont le nom va évidemment m'échapper parce que je me souviens de tout sauf des noms propres.
C'est pas
c'est ça l'âge. Hein, c'est
notre
formidable.
Sujet, c'était Jeff Koons.
Voilà, Jeff Koons. Je ne suis pas client.
Parce que
tout ça, ce sont des gadgets. Un jour, cette société finira par prendre un spot publicitaire pour une tragédie de Racine, ça m'emmerde. Ce sont des baudruches, on peut aimer ça. Moi, mon ami François Pinault, pour lequel j'ai le plus infini respect et la plus grande des amitiés, qui est un véritable collectionneur d'art, Bien Jeff Koons,
oui, c'est son rôle le plus strict.
Moi, j'ai le droit
de, Jeff Koons,
de penser qu'on est dans quelque chose d'autre que de l'art. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, vous voyez, sur votre catalogue, il y a une œuvre de Jeff Koons et à côté, il y a des œuvres de Picasso. Mon choix est fait. Voilà. Donc, à un moment donné, il y a un industriel qui nous fait croire qu'il est un artiste et de l'autre côté, il y a un artiste qui regarde le monde, non pas comme il est, mais comme il le voit. C'est ça, l'art. Et comme disait l'autre, comme disait Degas, dans la peinture, il n'y a rien à comprendre, c'est comme la merde, ça se sent.
Voilà. Ça vous Pierre Arditi, comme... dans ses œuvres.
Invitez-moi, je vais faire des chroniques, si vous voulez.
Vous avez tellement raison. Vous savez quoi, on va parler de Metallica, vous allez être content. On va parler de musique. À tout de suite, Pierre Arditi avec nous dans Culture Média.
11h. Europe 1, Culture Média.
En compagnie de Pierre Arditi, on a parlé d'art contemporain, on n'a pas encore parlé de musique, on a su que vous étiez mise au piano à 10 ans, vous avez joué devant la dynastie Casatsu, ça ne s'est pas passé vraiment tout à fait comme il fallait. Vous écoutez du hard rock ou pas?
Écoutez, oui, ce que vous appelez le hard rock, c'est plutôt
du
métal,
c'est ça. Ouais.
Pas trop, mais je ne demande qu'à écouter parce que je ne veux pas avoir, alors pour le coup, un avis préconçu. J'adore le rock des années 60, enfin le rock. La musique des années 70, ça, je l'écouterai toute ma vie, il n'y a rien de mieux. Mais faites-moi écouter un truc que je ne connais
ça
pas et je vous dirai mon opinion.
Stéphanie Loire, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Pierre, bonjour Philippe.
Bonjour.
On fait un événement, vous allez nous parler de deux disques événements à l'occasion des 30 ans de Metallica.
Exactement, je suis là pour ça. Et puisque je sais que Pierre Arditi est un fervent amateur de thrash metal, je me suis dit que j'allais vous faire plaisir, Pierre, ce matin.
Un peu plus fort.
Ça, c'est Metallica, c'est un titre qui s'appelle...
C'est pas mal, ça.
Ah, c'est pas mal, c'est Sad But True.
Oui.
Et il figure sur l'album, le Black Album de Metallica, qui est sorti il y a 30 ans. Alors, il y a 30 ans, les Californiens de Metallica, ils devenaient des stars planétaires grâce à cet album-là. Un disque mythique qui s'est écoulé à plus de 31 millions d'exemplaires. Tout de même, il y a pas mal de gens qui les aiment. Record absolu pour un groupe de métal. Pour vous compreniez l'importance de cet album légendaire, mais Pierre le connaît mieux que moi, hein, bien sûr. Avant sa sortie, Metallica, c'était un groupe considéré plutôt dans la branche extrême du thrash metal,
ouais.
La vôtre.
Qu'est-ce qu'elle raconte ?
Mais quand le Black Album est sorti, ça a été une révolution absolue. Des morceaux d'un groupe de metal étaient joués à la télé, à la radio, à des heures de grande écoute. Le titre Nothing Else Matter, par exemple, tube instantané. Trust I see and I find it new. Avec le Black Album, Metallica se met à faire vibrer des stades remplis avec un public venu du rock, mais plus seulement du métal, donc beaucoup plus large.
Ouais, c'est un peu comme Scorpion, les gros groupes de métal, ils font les tubes avec les slow.
Exactement, les balades, même si ça déplaît aux puristes à l'origine. Mis à part eux, d'ailleurs, on peut citer AC/DC qui vient du hard rock et qui fédère autant, mais je crois vraiment que c'est à peu près tout.
Mais c'est pas très trash, franchement.
Non, mais attendez. Justement, on leur a reproché sur cet album,
oui,
les puristes
que,
du trash.
Moi, je m'attends à des trucs, là, mais c'est pas du tout.
Je sais que vous
très,
êtes
très agréable à écouter.
Vous êtes trop trash metal, Pierre Arditi. Metallica, pour vous, c'est trop
terriblement
doux.
Trash. Je suis encore plus trash que tout à l'heure. Alors allons-y.
Pour fêter cet anniversaire, Metallica sort une réédition et un album de reprise qui s'appelle The Metallica Blacklist. 53 reprises inédites de 12 titres de Metallica. On retrouve entre autres Juanes, Miley Cyrus, Elton John, Dave Gahan, le leader de Depeche Mode, qui figure sur cet album-là. Il y a même des Français, Cocorico, le roi de l'électro, Sébastien, qui offre une version très originale, une fusion entre deux titres, Don't Tread on Me and Nothing Else Matter. On écoute.
On dirait du George Michael.
Ah mais non, exactement, mais
c'est bien,
en
c'est
fait,
vachement,
c'est bien ça. Hein.
Ah bah, oui.
Bah donc ça c'est une fusion de titres.
C'est ça comme si un mec avait des tatouages partout, des machins, l'œil crevé, tout comme ça. Bah, ça n'a rien à voir. Alors, ils ont le droit d'être comme ça, ça leur fait plaisir.
Exactement.
Mais il y a une musique qui est beaucoup plus, enfin encore de tranche ou avec des rythmes, boum, 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 qui ne bougent pas. Ça m'emmerde. Mais ça c'est vachement
mais
bien.
Mais là c'est hyper musical. Mmh. Bon, Sébastien a fait un super travail, je trouve, sur cette reprise là. Il y a aussi une version de Nothing Else Matter par Miley Cyrus avec Elton John, avec un violoncelliste chinois qui s'appelle Yo-Yo Ma, Chad Smith aussi qui est le batteur des Red Hot et Robert Trujillo, le bassiste de Metallica. On écoute un extrait.
J'adore ça. J'adore. C'est merveilleux.
Mais je savais. J'avais
pensé à Emerson, Lake et Palmer.
Oh là là, la référence, évidemment. Moi, je connais. Bah, vous connaissez pas.
Non.
C'est normal.
Mais pourquoi c'est normal?
C'est générationnel.
C'était un trio de rock progressif.
Emerson, Lake et Palmer.
C'était le premier super groupe avec un super mec au clavier, un super mec à la basse, un super mec à la batterie. Mais c'était des musiciens classiques qui faisaient du rock.
Mais c'est les années 70.
Je sors du studio, je vais écouter directement.
C'est bien ça.
Ah, c'est bien.
Ah oui, c'est super.
Il va y avoir des concerts.
Il y a des concerts.
Ouais, Metallica. Ils seront sur scène en France en juin 2022 au Hellfest. D'ailleurs, si vous voulez vous y rendre.
Ah, je serai mort, je ne pourrais plus y aller.
Ça va pas.
Si, non. Et alors, je ne vais pas pouvoir y aller. Moi qui joue un peu avant, s'ils peuvent y aller, mais là, à mon avis, je ne vais pas
aller. Pour info, la sortie des CD vinyle de la réédition et de l'album de reprise dont vous venez d'entendre des extraits est prévue, elle, pour le 1er octobre, même si là, pour le moment, elle est déjà disponible sur les plateformes numérique.
Ah oui, je fréquente pas ça, moi. J'ai
énergie.
Tort d'ailleurs, j'ai tort, je me fais foutre de ma gueule par les enfants. T'as encore des CD? Bah oui, mais t'es complètement con. Ah oui, ah bon, bah d'accord. Suffit d'avoir un truc et puis hop, t'as ça.
Les vinyles, c'est hyper branché aujourd'hui.
Je n'ai que ça.
Voilà.
Je n'ai que ça, pas de
problème. Merci beaucoup,
ça.
On n'aura pas le temps. Et on met un tout dernier extrait.
Un dernier extrait.
On m'avait dit, il y a Isia qui est dans
Isia, la fille de Jacques Higelin, exactement, a fait une reprise et figure sur cet album The Blacklist. Le titre est génial. Elle a repris My Friend of Misery. On l'écoute. Pierre Arditi, lève le pouce, ça veut dire qu'il aime.
Les chats ne font pas des chiens. Higelin, c'est un génie, et sa fille, c'est le même genre.
Isia qui reprend du Metallica. Merci beaucoup, Stéphanie Loire. Ce titre s'appelle Friend of Misery. Dans un instant, Marc-Antoine Lebray pour ses stories. Pierre Arditi, encore avec nous, évidemment, à tout de suite.
Oui. 9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Pierre Arditi, fan de Metallica, beaucoup moins fan de Jeff Koons. Votre pièce, fallait pas le dire, ça va démarrer le vendredi 24 au Théâtre de la Renaissance avec Evelyne Bouix, pièce écrite par Salomé Lelouch. Mais vous avez une actualité de dingue. Pendant le confinement, rarement un acteur aura autant travaillé. 4 films, on l'a dit. Un avec Yvan Attal, dans lequel vous jouez tous les deux, père et fils des chefs d'orchestre. Quoi d'autre?
Yvan Attal, mais qui est le film d'Yvan Attal, où il est réalisateur, qui s'appelle Les choses humaines, qui a été sélectionné à Venise, qui a remporté visiblement un joli succès.
C'est d'après le roman de Karine Thuil?
Oui, c'est le roman de Karine Thuil. J'ai tourné le prochain film d'Edouard Baird, qui est un délicieux bordel formidable, complètement iconoclaste comme il est lui, mais avec un talent fou. Et puis je participe à la sortie du Petit Nicolas, qui va sortir là maintenant, qui a réalisé Julien Rapneau, qui, comme son nom l'indique, est le fils de Jean-Paul.
C'est déjà souvent un joyeux bordel, les films d'Edouard Baird.
Oui,
là, vous dites en plus, c'est quoi? Alors, vous mettez l'eau à la
rien,
bouche.
Ce sont des gens d'une certaine génération, la mienne, donc c'est-à-dire des gens un peu plus âgés, qui se réunissent en principe pour remettre un prix à l'un des leurs, et puis tout ça tourne à la déclinaison de leur vie, leur conflit, comme ça, et ça s'appelle Adieu Paris, et à la fin, ils se retrouvent tous les quatre, Poulvorde, Damiens, moi, et je crois que c'est Lecoq, tous les quatre, et on marche dans les rues, et on essaie de retrouver un avenir possible, qui sans doute n'existe pas, et nous allons nous fondre dans la nuit. C'est très chouette, c'est magnifiquement écrit, c'est très bien dirigé d'ailleurs, et puis lui, il est divin, il est absolument divin, il est délicieux, il est foisonnant d'inventions. Je comprends pourquoi ce qui lui arrive, parce qu'il a un charme, ça ne s'invente pas, ça on l'a ou on l'a pas, ça ne s'apprend pas.
Pareil.
Comme les stars, tout le monde est une star, ça ne veut absolument rien dire. Les stars, moi je me souviens, j'en ai rencontré une, Brigitte Bardot, à l'époque où j'étais totalement inconnu et très jeune. Je suis rentré au studio de Boulogne à l'heure du déjeuner, où il y avait des machins, des acteurs, des techniciens, et Mimi, des machins, un truc comme ça. Puis à un moment donné, la porte s'est ouverte et Brigitte Bardot est rentrée. Elle devait avoir à l'époque 28 ans, elle était au sommet de sa beauté. Et il y avait, je sais pas, 200 personnes dans le truc. Et on a entendu voler une guêpe en silence pendant au moins 30 ou 40 secondes. Ben voilà, une star, c'est ça. Si moi je rentre par exemple dans un endroit où les gens me reconnaissent, ils me disent ah t'as vu, t'as regardé là, il a grossi, il est maigri comme ça, et les mecs continuent de manger. Voilà, c'est ça la différence. La différence, c'est ça.
Formidable définition, vous avez absolument raison. Je voulais parler de beaucoup de choses, mais il y a aussi une personne qui tenait à vous croiser, c'est Marc-Antoine Lebray, enfin pas tout à fait. Bonjour Marc-Antoine.
Bonjour. Vous n'avez pas envie de me croiser, j'aimerais comprendre.
Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Chaque jour, des personnalités rencontrent notre invité. Aujourd'hui, Pierre Arditi, c'est Ariel Dombal qui voulait vous féliciter pour votre pièce.
Oh. Bonjour Philippe et bonjour Pierre. Hola Felipe y hola Pedro. Pierre, je dois vous avouer que je suis particulièrement admiratif de votre travail dans « Fallait pas le dire ». Perso está imposible de supportado mi marido Bernardo Henrio a la casa y a trabara. De construction of a bright. De plus, je vous adore comme acteur, Pierre. J'adore aussi votre femme, la talentueuse Evelyn Bouix. Si aprendo que Evelina diminution 20% de salario de Pedro, yo cupo tu corones. Allez, au revoir Pierre et au revoir Philippe. Adios los comediano y adios los comedons.
Laurent Ruquier voulait s'adresser à vous, Pierre Arditi.
Bonjour Philippe et bonjour Pierre. Alors, ce que les auditeurs ne savent peut-être pas, c'est que Pierre Arditi est un spécialiste des doublages. Il a doublé des films américains, des films anglais, et il a même doublé ses revenus l'année où il a fait la pub LCL. Non, plus sérieusement, c'est quand même lui la voix de Christopher Reeve dans Superman.
On l'a dit.
Superman 2, Superman 3. Bon, après, Christopher Reeve, c'était pas l'acteur le plus difficile à doubler. Surtout vers la fin, quand il était en fauteuil.
Oh. Oh. C'est la pièce, c'est ça, on peut pas le dire. On peut pas le dire, ça, Laurent.
On le dit quand même.
Thierry Ardisson est avec nous ce matin.
Ouais. Salut Pierre. Alors, tu connais le principe, ce sera des questions et des vannes. Ouais. C'est parti pour l'interview, fallait pas le dire. Pierre Arditi, ouais, avec ta femme Evelyn Bouix, vous avez joué dans la pièce de sa fille Salomé Lelouch. Donc on peut dire qu'en fait, ta femme, elle a dû coucher pour avoir le rôle. En 2019, t'as signé la pétition pour interdire la corrida pour les mineurs. Ouais, je suis d'accord. Déjà qu'un taureau de 500 kilos, ça fait pas le poids contre un con avec un sabre. Alors un CP, il tiendra pas 30 secondes. Et enfin, j'ai une question à poser aux grands professeurs Julien Vignali et Mélanie Gomez. Oui. Car grâce à vous, on sait que se retenir d'éternuer peut causer un AVC. Mais qu'en est-il de se retenir de péter? Ouais.
Oh non. C'est élégant, c'est gracieux, merci, ça m'a fait vraiment plaisir.
On n'a jamais dit ça.
Mais personne. C'est quoi le thème du jour? Merci beaucoup Marc-Antoine. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On sera avec le présentateur d'Échappée Belle, Ismaël Khalifa, pour un numéro spécial consacré à la vallée de la Roya.
La vallée de la Roya.
Je suis allé un peu vite parce que c'est la fin de l'émission, on est tout le temps à la bourre. La vallée de la Roya, cette très très belle vallée au-dessus de Nice, qui a été détruite par le passage d'une tempête.
Absolument.
Et puis Matt Pokora qui se lance dans les grandes émissions. C'est une pièce, c'est dès demain au Théâtre de la Madeleine. Merci beaucoup Pierre Arditi d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie, ça m'a fait tellement plaisir de vous revoir.
Et vous avez quoi ce matin?
Vous et les autres.
Ce matin, vous étiez où ce matin?
J'étais coincé, on m'a obligé à aller à Télématin. C'était
C'était extraordinaire, on a parlé de la magnifique
pièce. Avec Stéphane Menon, j'étais ravi. Avec Thomas Soto, je connais un petit peu, j'aime bien.
Et Julien Vignali, qui est ici présente, qui cite son nom à la troisième personne.
Bah oui, je parle de moi à la troisième personne. On va parler de l'émission aussi qu'on a fait avec Mélanie Gomez.
C'est quoi le programme? C'est vraiment pour vous, Pierre.
On va se poser une question aujourd'hui. Et si celui ou celle que j'aime était toxique, comment identifier les signes qui doivent dire qu'il faut peut-être se barrer vite fait, ou comment se réparer aussi?
Il faut se barrer.
Il faut se barrer.
Oh oui, ça se voit très vite. On n'a pas faire l'émission.
Est-ce que vous avez
gens qui n'ont pas compris? Mais moi, ça fait un bon moment que j'ai compris.
Est-ce que vous avez un mot à dire sur le deuxième thème qui sera la cellulite? Comment lutter contre la cellulite, Pierre Arditi?
Alors moi, j'en ai pas, mais je fais des régimes à longueur d'année parce que je considère que je suis toujours trop gros. Là, j'en ai paumé quand même pas mal. Bah, si vous avez le système, vous me le direz.
Mais
malheureusement, je crois qu'on le connaît. Et c'est malheureusement très contraignant quand on est comme moi et qu'on aime boire et manger. À un moment donné, il faut choisir.
Quel bonheur de vous avoir reçu. Merci. On vous écoute, les filles. Et je vous dis à tous, bonne journée à l'écoute d'Europe 1. À demain.
Au revoir, les filles. Europe 1.